Amis du soir, bonsoir. En cette fête de la Sainte-Cécile, nous allons donc travailler les enjeux spirituels du corps. Je pense que je vais être répétitif. D'abord par rapport aux leçons précédentes et aussi à l'intérieur de cette leçon-ci, mais c'est pour essayer d'approcher une réalité qui est, vous le concéderez, difficilement saisissable. Dans le premier chapitre, je parle de symbole contre positivisme. Simplement que nous avons vu deux sortes de positivisme les fois précédentes. Le positivisme scientifique, qui veut saisir comme seule et unique réalité ce qui est observable dans les corps. Donc je vais appréhender le corps sous la modalité scientifique, biologique, physique. Et vous avez un positivisme juridique qui dit que la loi telle qu'elle est posée par le législateur n'a pas d'en deçà. Donc, si vous voulez, le législateur va décider la loi à partir de sa volonté. Donc, il n'existe de droit que positif, il n'existe de droit que posé, il n'existe pas de droit naturel qui tiendrait à la nature. Nous allons revenir là-dessus. Donc, par rapport à cette double approche positiviste du corps, qui va objectiver le corps à la manière scientifique, ou qui va décider du corps comme de soi, qui va privilégier la liberté à l'intérieur du corps, je voudrais montrer la dimension symbolique du corps. Donc ce sera l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui, de montrer la dimension symbolique du corps. Vous connaissez l'histoire d'Épaphras et de Timothée. Ce sont deux amis qui sont à Athènes. Timothée reste à Athènes, mais Épaphras va partir en Asie mineure. Et il a des affaires là. Et donc, avant de se séparer, ils prennent un tesson de céramique, ils le cassent en deux. Timothée garde le sien, Épaphras s'en va en Asie mineure avec le monstre. Le jour où Timothée veut faire un cadeau à son ami Épaphras, il envoie son esclave en Asie mineure avec le cadeau et le tesson de poterie. De telle sorte que l'esclave, qui ne connaît pas Épaphras, va se faire indiquer l'endroit où il se trouve, et pour être sûr qu'il s'agit d'Épaphras, ils vont prendre l'un et l'autre les deux morceaux de la poterie. Épaphras va donner le morceau qu'il avait, et l'esclave de Timothée va mettre ensemble l'autre morceau. Ils vont voir que les deux morceaux correspondent bien. Donc, cette pièce va être un signe de reconnaissance. Les deux hommes, donc l'esclave de Timothée et Épaphras, vont cymbalo, vont jeter ensemble les deux morceaux de poterie. Et ça va être un moyen, une médiation de reconnaissance des deux hommes. Donc il va y avoir un support matériel, qui est la céramique, mais ce support matériel trouve son sens dans la possibilité de reconnaissance des deux personnes. Voyez-vous, quand ils étaient à Athènes tous les deux, ils ont pris une pièce de poterie et ils l'ont cassée en deux et ils se sont séparés. Donc, la pièce de poterie symbolisait quelque chose de leur unité. Ils sont partis chacun avec un morceau, ils refont cette unité. Et la pièce matérielle sert à la reconnaissance spirituelle. Tel est le symbole. Et donc, vous voyez tout de suite que nous ne pouvons pas, si nous lisons, nous acceptons de lire le corps selon sa portée symbolique, nous ne pouvons plus réduire le corps à sa dimension purement matérielle, observable scientifiquement, ni à sa dimension purement volontaire, spirituelle. Il y a une intrication des deux. Et c'est cette réalité-là que je voudrais explorer avec vous pour essayer de voir les enjeux spirituels. Parce que la femme de ménage d'Épaphras, qui est en train de faire le bureau et qui voit sur le bureau un morceau de poterie, il dit, mais qu'est-ce que ça fait là ici? Et il le met à la poubelle. Parce que c'est... Or, il faut pouvoir lire les corps autrement que comme du matériau biologique. Le corps est porteur d'une intention spirituelle. Et donc, il faut pouvoir appréhender, lire cette réalité-là au niveau où elle veut se donner. Et le juriste, qui n'est pas modeste, dit, eh bien, c'est le droit qui doit pouvoir faire cette lecture des corps et de faire la distinction, elle est fondamentale dans le Code civil, de faire la distinction entre la personne et la chose. Alors, je cite Aurel David, qui dans sa thèse de philosophie du droit, sur essai sur la distinction des personnes et des choses, Aurel David compare le voyage vers l'Amérique avec Christophe Colomb, avec un équipage de scientifiques, et Christophe Colomb, c'est le juriste de l'affaire. Et ils sont à la recherche de la personne, ils veulent découvrir l'Amérique qui est la personne humaine. Et les scientifiques explorent tout ce qui se présente pour eux, et ils ne voient que de l'eau, ils ne voient que de la matière, il n'y a rien, il n'y a pas de personne. Vous pouvez découper les corps comme vous voulez, vous n'y verrez jamais la personne. Et c'est le juriste Christophe Colomb qui dit, attendez encore 3 jours, espérez plus d'espérance, 3 jours, l'heure, dit Colomb, attendez, il y a quelque chose dans l'homme qui ne se réduit pas à la matérialité objective. Donc, parce que le juriste travaille la relation, essentiellement la relation, c'est-à-dire la relation entre personnes. Et à la limite, le scientifique pourrait ne voir que dans le cosmos qu'une immense objectivité, un immense objet qui ne fait que s'étudier lui-même, si vous voulez, une pure objectivité. Or, le droit devrait pouvoir montrer que il y a dans les corps un sujet, une personne qui va s'exprimer sur le plan spirituel. Donc, nos législations actuelles ont largement dissocié les choses. Très souvent d'ailleurs, en conjoignant les deux positivismes. Le positivisme juridique qui dit il n'y a de droit que posé par le législateur comme acte de volonté, et qui s'appuie sur un positivisme scientifique qui ne considère plus les corps que sur la modalité de l'objectivation. Alors, en contraste avec cette approche, je voudrais donner le corps comme le soi de la reconnaissance du moi. Donc, il y a un moi que l'on va appeler un moi spirituel, il y a un sujet, un acteur de volonté, mais qui est nécessairement lié à un soi, une objectivité, une corporéité. Et ce vocabulaire-là, du moi et du soi, je cite mes sources, de Caritas in Veritate, Benoît XVI, 2009, numéro 68, sur le développement intégral, Benoît XVI note que l'homme ne s'engendre pas lui-même, il est engendré par autrui, il n'y a pas d'auto-engendrement, et il dit, personne ne modèle arbitrairement sa conscience, mais tous construisent leur propre moi, sur la base d'un soi qui nous a été donné. Donc, le corps, c'est une réalité à la fois extérieure, un soi, elle est objective, hein, et c'est une réalité intérieure qui indique un moi. Et c'est ce que je voudrais développer dans le deuxième chapitre, du corps comme interface. En commençant par le soi, qui est que... où je parle de la part d'autrui. Le sujet
ne peut jamais se replier seulement sur lui-même, puisque par son corps précisément,
par le soin, il est exposé à autrui, il est livré à autrui. D'abord, il vient d'autrui, il est engendré par autrui, il est livré, il livre une objectivité à autrui. Si je vois que vous êtes là, c'est parce qu'il y a une certaine dimension, une épaisseur, une forme qui m'est donnée. Donc le corps objectif, autrui, et même le corps lui-même, en sa sexualité, est tourné vers autrui. Donc il y a dans le corps la part d'autrui, il le livre à la relation. Et c'est ce fait que j'ai un corps, l'expression « j'ai un corps » va montrer la distance entre le corps et le « je » et le sujet. Et donc je peux dire de façon véridique que j'ai un corps, qu'il y a une distance entre mon corps et moi. D'accord ? Mais cette distance de moi à mon corps est ce qui va permettre la reconnaissance. Donc, paradoxalement, on va être tout le temps dans les paradoxes, paradoxalement, ce corps qui est le mien, mais qui est en même temps extérieur à moi, d'une certaine façon, ce corps qui est le mien va permettre la reconnaissance par autrui. Donc, il y a une épaisseur du corps qui a l'air de faire contraste avec l'agilité de mon esprit, avec ma spiritualité, mais c'est cette épaisseur-là qui me donne à connaître et qui me donne à connaître moi par autrui. Alors, on va dire, oui, mais ce corps-là ou qui me donne à connaître à autrui, ce n'est pas moi qui en ai décidé. Donc, je peux être, et alors on peut reprendre toutes les questions de la bioéthique, je peux être sexué de telle manière, je peux être tout simplement vivant, je peux être souffrant, je peux être handicapé. Cette lourdeur, cette contingence corporelle, je ne l'ai pas voulu. Est-ce que c'est encore moi? Eh bien, il y a dans la réalité corporelle une objectivité qui me lie à autrui et qui fait partie de moi, qui me désigne moi. Donc, je ne peux pas me comprendre moi-même en dehors de ce soi. Je ne peux pas me comprendre moi en dehors de ce soi qui me livre à autrui. En dehors de ce soi que je n'ai pas voulu. Donc, je dois me considérer moi-même comme engendré par un autre, exposé à un autre. Et cette exposition, ça fait encore partie de moi. Telle est ma condition corporelle. Le moi est symbolisé par un soi. Donc, ce tesson de poterie symbolise une parole de reconnaissance entre les deux amis. Bien, ce que je suis, moi, en mon corps, symbolise pour autrui le moi spirituel. Et donc, le sujet qui se considérerait comme un moi pur sans soi entrerait dans une contradiction ontologique, puisque je ne peux pas me penser sans le soi. Ce sera à retenir, par exemple, à propos de l'euthanasie. Alors, ça, j'ai dit ici ce qu'était la part d'autrui dans le soi. Maintenant, le corps désigne aussi, est le signe du moi. Et parce que l'objectivité corporelle, appréhendée par exemple par le scientifique ou par le médecin, elle est significative d'un esprit, d'un jeu, d'un sujet.
Je parle de la pudeur et je parle du droit.
Quand je cite Pierre Dornelas, qui est le leader de la réflexion bioéthique en France du côté de la conférence épiscopale de France, il dit « Le corps est porteur de l'invisible ». Donc, le corps n'est pas simplement une chose étendue, le corps est vécu de l'intérieur, le corps est habité, comme on l'a dit à la première séance de ce séminaire. Et donc, le corps permet d'être présent dans le monde environnant, dans la nature, mais sans s'identifier au monde. Le corps fait partie des objets de ce monde, mais il n'est pas intramondain. Le corps n'est pas de ce monde. Le corps est dans le monde, et c'est la parole de Jésus, hein. Le corps est dans le monde sans être de ce monde, parce qu'il porte déjà en lui une intériorité spirituelle. Et alors, il y a une petite phrase de Dornelas qui est intéressante. C'est d'ailleurs ça qui suscite le désir. Quand un monsieur voit une belle demoiselle ou quand une dame voit un beau monsieur, ce qui va attirer l'autre, ce qui va susciter le désir, c'est pas seulement le corps, c'est pas le corps comme tel qui va attirer. Ce qui est attirant, c'est précisément que l'esprit, le sujet, l'invisible se donne dans cette corporité-là. Et c'est ça qui suscite le désir. Alors, lié au désir, je vais parler de la pudeur avec le maître ouvrage de Max Scheler, le philosophe phénoménologue qui a été longuement étudié dans sa thèse de doctorat par un certain Karol Wojtyła, avant qu'il ne soit Jean-Paul II, sur la pudeur. Et la pudeur signifie précisément ce retour sur soi qui est la reprise, si vous voulez, par le sujet de sa condition de sujet à l'intérieur d'une objectivité corporelle. Donc, Scheler dit que la pudeur montre que l'être humain est un pont, est un passage entre la subjectivité d'une personne et sa facticité, sa contingence corporelle, en particulier sa sexualité. Il y a une étrangeté corporelle qui pourrait être mal lue par autrui, qui pourrait être mal lue par autrui, et donc la pudeur qui se cache, qui se couvre, veut justement qu'on ne se trompe pas sur cette objectivité corporelle qui est présentée à autrui. Donc, le sujet reprend, dans un mouvement de pudeur, reprend toute cette part de lui-même qui, je reprends l'expression, qui pourrait être mal comprise, qui pourrait... Si je me déshabille devant le médecin, mais il met son tablier blanc, comme ça... Je sais ce qu'il veut, on se comprend. Il a son tablier blanc, je vais chez le médecin, il va ausculter l'objectivité corporelle, mais on se comprend. Et à partir du moment où une femme va chez le médecin et le médecin pourra avoir un geste déplacé, et oula, qu'est-ce qui se passe? Donc la pudeur va retrouver tous ses droits parce que l'homme, l'être humain, est sans cesse ce passage, cette confrontation, cette dialectique entre une donnée corporelle contingente et l'esprit qui se joue et qui se vit nécessairement dans cette épaisseur. Et Scheler note qu'il n'y a que l'être humain qui puisse être pudique. L'animal n'est pas pudique parce qu'il n'y a pas l'esprit. Et dit, Dieu n'est pas pudique parce qu'il n'y a pas de corps. Donc, il y a
que ce soit un dieu ou un animal, en deçà ou au-delà du pont, il n'y a pas de pudeur. La pudeur n'est possible, et il dit, elle est nécessaire et elle est possible dans l'être humain, précisément à cause de ce jeûne.
Alors ça c'est pour l'observation plus phénoménologique. Alors, le droit devrait pouvoir garder ce lien, ce pont, ce passage entre le moi et le soi, et ne pas dissocier les deux entre un pur moi qui fait ce qu'il veut du corps ou un pur soi qui n'est plus porteur d'esprit. Car ce qui va se passer, c'est que si le droit ne maintient plus le lien de cette donnée, de cette condition corporelle, bien, il va y avoir de la violence. Il y a quelque chose qui va se casser dans l'être humain lui-même. Nous allons avoir le moi qui va entrer dans le subjectivisme le plus pur. Et nous allons avoir le soi qui va entrer dans l'objectivisme le plus pur. Et nous allons retrouver le double positivisme où la science va étudier le corps comme un matériau biologique et où le droit va décider de la loi à partir de la pure et simple volonté du législateur, reproduisant cela, la décision que chacun prend pour lui-même dans une optique libérale, et donc sans qu'il y ait en deçà de cette volonté du moi ou au niveau social, en deçà de cette volonté du législateur, une symbolique qu'il y aurait à lire comme telle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que naturellement, si vous voulez, le soi est porté par un moi. Et donc, c'est un lien qu'il ne faut pas casser, parce que c'est ainsi qu'est la personne. Complétons. C'est ainsi que la personne est, et c'est aussi à partir de ce lien-là, c'est aussi ainsi qu'elle doit être, la personne. Ce qui définit la personne, c'est précisément ce lien-là d'une subjectivité spirituelle dans une expression objective. Et donc, il faudrait que le droit puisse maintenir ce lien-là. Alors, sur le plan technique, je vous parle de Michela Marzano, qui est une philosophe italienne d'origine, mais française actuellement, qui publie assez bien sur la philosophie du corps, et qui, elle, pour essayer d'exprimer en termes juridiques le lien d'un sujet, le moi, à son propre corps, emploie non pas la propriété, comme on dit, je suis propriétaire de mon bic, je ne suis pas propriétaire de mon corps comme je suis propriétaire de mon bic, sinon on instaurerait une distance, ce ne serait plus le soi Dieu d'un moi, ce serait un soi qui n'appartiendrait plus à personne. Donc elle dit, elle recourt au vieux vocabulaire latin, latin médiéval, du dominium, où les philosophes d'alors exprimaient que entre le sujet et ses facultés, par exemple, entre le sujet et sa propre volonté, il y a l'exercice d'un dominium, c'est-à-dire que la propriété n'est pas séparable du sujet lui-même. D'ailleurs, on le dit en français, c'est propre au sujet. Donc, je n'ai pas la propriété de mon corps, mais j'ai un corps propre. Le corps est propre au sujet. Donc, on a la notion la plus fondamentale et la plus primitive de la propriété dans cette appropriation irréductible à toute objectivation. Cette appropriation corporelle irréductible à l'objectivation. Et donc, si on garde précisément, si le droit parvient à garder ce lien intrinsèque et inséparable entre le moi et le soi, on pourra éviter aussi bien le subjectivisme que l'objectivisme. Alors, prenons, pour mettre des mots, je pense que le subjectivisme, c'est ce qu'on va retrouver dans l'euthanasie. Donc, dans l'euthanasie, puisque j'ai décidé de disparaître, ça veut dire que c'est en esprit. Je suis toujours là, dans le soi, dans ma facticité, dans ma contingence souffrante, je suis toujours là, mais j'ai décidé de partir. Donc ça, c'est le législateur, en légalisant l'euthanasie, ouvre la porte au subjectivisme par rapport au corps, tandis que l'objectivisme, on peut en voir plusieurs applications dans la bioéthique. Dans la bioéthique, ça pourrait être par exemple l'avortement, où précisément le fœtus n'est plus reconnu dans sa subjectivité, mais il est objectivé comme ce qui peut être éliminé. Donc, voyez un peu ce que j'ai voulu dire. Il y a une symbolique qui devrait être sauvegardée par le droit, le corps étant interface de spiritualité et d'étendue, interface inséparable. Et donc, la question que je me pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que il est possible, dans la société telle qu'elle est, est-ce qu'il est possible de garder cette unité symbolique des corps? Mais garder cette unité symbolique des corps, ça peut aller très loin dans la contestation d'un certain nombre de lois bioéthiques contemporaines. Et alors, je m'aperçois, c'est le troisième chapitre, les enjeux de la liberté, je m'aperçois que ça ne va pas être facile de se mettre d'accord sur cette lecture-là, sur cette lecture symbolique. Parce que la société telle qu'elle se présente aujourd'hui est basée sur le choix des convictions. Et c'est un choix libre des convictions. Donc, si vous voulez considérer votre propre corps dans une certaine symbolique, qui serait par exemple la symbolique religieuse, et où le sens de cette condition corporelle, le sens vous serait donné dans la création, qui serait alliance de l'homme et de la femme, dans l'alliance du créateur et de la créature. Si vous voulez, à la suite de cette lecture-là, si vous voulez considérer le mariage comme précisément cette alliance pour la vie qui implique la fidélité, l'unicité, la fécondité, et comme étant le berceau naturel de l'accueil de la vie, ça, c'est votre affaire. Si vous voulez que la vie soit protégée depuis sa toute première origine jusqu'à la fin naturelle, ça, c'est votre lecture du corps. On n'a rien contre. On n'a rien contre cette lecture-là. Et donc, en fonction du choix de votre conviction, vous pouvez adopter cette lecture-là. Mais vous ne pouvez pas, évidemment pas, l'imposer, cette lecture. Ça, c'est vous qui avez choisi d'adhérer à cette conviction. Si, au lieu de parler de création, je préfère parler de hasard et de nécessité, parce que je suis scientifique, je suis biologiste, je m'appelle Jacques Monod, et donc je vois dans les processus d'apparition de la vie un certain nombre de déterminismes biologiques de temps en temps traversés par le hasard. Ça, c'est mon choix à moi. Et si je vois le mariage comme
la possibilité pour deux êtres, un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes, de vivre des moments de bonheur et de rompre leur solitude tant que cela durera, et ça c'est mon choix aussi. Et si je trouve qu'il faut profiter de la recherche scientifique sur les embryons pour améliorer la santé publique, et si je trouve qu'après un certain nombre d'années de souffrance, il est temps de mettre fin à ma vie, bon, je peux choisir l'euthanasie. Donc je peux opposer aux convictions du croyant un certain nombre de convictions plus libérales qui se considèrent comme au moins aussi équivalentes que les autres. Donc, dans une démocratie, donc je passe ici à l'étape sociale, dans une démocratie, nul parti ne peut faire valoir sa philosophie par rapport aux autres.
D'accord ?
Et donc, nous sommes dans ce qui serait un dialogue de sourds, mais où on trouve des deux côtés une certaine cohérence. Dans la mesure où le libéral a dit, mais ce qui va compter, c'est la valeur de la liberté, c'est bien ça qui définit l'homme. L'animal, lui, il est déterminé par l'instinct. L'homme, lui, il est essentiellement liberté. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur la liberté et permettre à l'homme de mener sa vie comme il l'entend tant qu'il ne nuit pas à la liberté d'autrui. Alors, si le croyant dit, oui, mais est-ce que vous oubliez que nous avons un corps, d'où vient que nous sommes quand même corporels, et vous faites comme si votre liberté pouvait se détacher de son corps. Le libéral dira, mais oui, mais ça c'est la puissance de la liberté, précisément, de pouvoir se détacher de son corps. Comme aussi, le cas de l'euthanasie est typique, de pouvoir se détacher du lien. Pour le libéral, ni le corps, ni le lien ne sont des données premières de la liberté. Le corps doit pouvoir être régi par la liberté, et le lien social, rappelez-vous, il a été formé par la liberté aussi, c'est-à-dire par le contrat social. Donc, nous avons décidé d'être ensemble. Donc, la valeur qui va être privilégiée, c'est les libertés. Et si on dit, oui, mais si chacun fait ce qu'il veut, non, chacun ne fait pas ce qu'il veut, il faudra, bien sûr, et c'est en ça que consiste la moralité, il faudra respecter l'égale liberté. Alors, par rapport à cette lecture que le libéral oppose à la lecture croyante, je voudrais montrer, essayer de voir comment on pourrait convaincre le libéral qu'il se trompe en pensant sa liberté coupée de son enracinement corporel, de toute la symbolique corporelle et de son lien à autrui. Et rappelez-vous le cours qu'on a fait, on a parlé de la famille comme l'élément, le fondement naturel de la société. Dans la perspective que je développais, pour moi, le lien social ne se noue pas par un contrat, le contrat social, parce que ça, c'est une dimension volontaire. Le lien social se noue d'abord dans le lien de l'homme et de la femme, et puis des parents aux enfants. C'est là le premier lien social naturel qui va, de fait, fonder la société. Donc, partir de la liberté qui assure une convergence par le contrat social avec les autres libertés pour édifier la société, c'est faire l'impasse sur une donnée fondamentale que ces libertés-là ne se sont pas engendrées elles-mêmes. Il n'y a pas d'auto-engendrement, Benoît XVI. Nous avons été engendrés. Or, il faut déjà pouvoir réfléchir sur cet engendrement pour nous comprendre nous-mêmes. Voyez-vous, je ne peux pas me concevoir moi-même comme une pure liberté isolée qui a décidé de passer un contrat avec les autres pour former une société, puisque je ne suis pas pure liberté isolée, je suis précédé tel que je suis, hein, pas dans mes rêves, mais tel que je suis dans la réalité pour essayer de rejoindre au mieux ma réalité, je suis obligé de me penser comme ayant déjà été engendré. Donc, il y a déjà un lien social qui a été noué. Donc, lorsque le libéral pense sa liberté en dehors du lien social, comme aussi en dehors de son corps, puisqu'il va pouvoir faire ce qu'il veut de son corps, ce que sa liberté aura décidé, et ce que le législateur, porté par le contrat social, aura permis que l'on fasse. Donc, pour essayer de contredire cette liberté libérale, je voudrais faire appel à la lecture théologique en disant, mais écoutez, si nous revenons à cette idée de création, à cette idée que, au fond, l'homme et la femme, c'est une alliance, donc c'est il y a un rapport de l'un à l'autre. Et s'il y a ce rapport de l'un à l'autre entre l'homme et la femme, c'est parce qu'il y a un rapport de l'un et de l'autre avec Dieu. Donc, si les humains, disons, voulaient accepter de lire leur propre liberté dans une alliance avec Dieu, le Dieu créateur, est-ce qu'ils ne parviendraient pas à mieux se comprendre eux-mêmes dans leur propre condition et à mieux comprendre ce que veut dire précisément cette condition corporelle symbolique. L'ennui, c'est que vous ne pouvez pas contraindre l'autre à cette lecture. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déployer, ce que nous allons essayer de faire, nous pouvons essayer de déployer la geste de Dieu. Déployer la geste de Dieu dans la Bible en disant, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on ouvre ces pages de l'Écriture et qu'on voit ce qui se passe entre Dieu et l'homme, il y a là une clé de lecture qui est extraordinaire, une clé de lecture qui convient. L'argument le plus fort, sans doute, en théologie, c'est l'argument de convenance. Ça convient à la condition que nous sommes, qui est une condition symbolique. Donc, le théologien ne peut pas dire « Dieu devait créer le monde, Dieu, le Fils de Dieu devait s'incarner, Jésus devait instituer l'Eucharistie. » Le théologien, on ne voit Dieu que de dos, disons-nous. Donc Dieu est passé, et nous, les humains, nous passons après. Nous voyons Dieu de dos. Il est passé et il a créé. Jésus est né la nuit de Noël. Il a institué l'Eucharistie. Donc, tous ces faits bibliques, le croyant les lit comme étant une reliance, il y a un lien qui se fait entre Dieu et nous, mais c'est aussi une relecture. Hein. La religion est reliance et elle est relecture. Et ces récits bibliques permettent à l'homme de se comprendre lui-même à une profondeur qui ultime, puisqu'il s'agit de rejoindre l'intention même de Dieu inscrite dans les corps. Mais le libéral va dire, écoutez, vous donnez cette lecture-là, moi j'ai une autre lecture du réel, donc gardez la vôtre, moi je garde la mienne. C'est un peu le drame
politique, c'est qu'il y a un affrontement des convictions, mais que on ne voit pas laquelle pourrait de soi l'emporter sur l'autre, car il y a la liberté. Chacun garde sa liberté de servitude. Alors je parle de la... Est-ce que c'est une adhésion facultative? Est-ce que c'est facultatif d'adhérer au christianisme? Le chrétien dira que c'est une adhésion libre, mais que cette adhésion n'est pas nécessairement facultative. Il y a, si vous voulez, du fait même
de notre condition corporelle, inscrite en notre condition humaine, il y a l'appel à une lecture qui est précisément la lecture donnée par la Genèse et par le Christ et par la résurrection.
Et donc, bien sûr, l'adhésion à ce message chrétien, l'adhésion suppose la liberté. Donc c'est Vatican II, liberté religieuse. Et l'adhésion de foi ne peut venir que d'un cœur libre. Mais il ne faut pas glisser de la condition nécessaire à la condition suffisante, où on dirait, bon, il faut nécessairement la liberté pour adhérer à l'acte de foi, mais je ne peux pas me contenter de la liberté en disant, mais puisque l'adhésion à la foi est libre, je ne vais pas y adhérer. Si vous voulez, il y a dans la lecture chrétienne des corps une nécessité, mais nécessité qui s'adresse nécessairement à une liberté. Autrement dit, lorsque le chrétien déploie la geste biblique pour expliquer la convenance des corps, il ne fait pas sa prédication pour sa propre chapelle. Il donne un discours, il donne une lecture et une relecture des corps qui concerne tout un chacun du fait d'être humain et donc symbolique dans sa condition.
Bon, ça se discute évidemment.
Alors, j'en viens alors au cœur de la question sur la lecture spirituelle.
Si le scientifique développe le discours en il, en appréhendant les corps sur le mode le plus objectif possible. Et si le libéral, dans le positivisme juridique, va tenir un discours en je? Donc, pour le libéral, ce qui compte, on l'entend à tous les tournants des discours bioéthiques libéraux, ce qui compte, c'est l'autonomie. L'autonomie du patient, l'autonomie de la mère, l'autonomie de l'enfant, l'autonomie du sujet, l'autonomie du savant, enfin, tout le je. Et le discours en il. Et donc, ces deux discours, je le répète, qui peuvent se compléter, faire des alliés objectifs, ces deux discours restent insuffisants pour comprendre la condition corporelle elle-même. Et ce que propose la religion, c'est précisément le tu, la deuxième personne de l'humain, le tu. Et c'est toute l'affaire de la Bible. La Bible parle d'un tu qui n'est pas objectivé, qui n'est pas simplement moi, donc c'est un autre. Donc on va faire référence, la Bible fait référence à l'altérité, l'autre, le tout autre. Et c'est de même, si vous voulez, que le je ne s'appartient, le moi, ne s'appartient pas purement et simplement sans être exposé par un soi,
l'homme, l'être humain, ne se comprend pas lui-même sans passer par un « tu ». Lorsque je parlais de la part de l'autre qui est dans le corps, la part d'autrui qui est dans le corps, ça pourrait être précisément ce signe, ce renvoi à l'altérité de Dieu. Si vous prenez la création où l'homme et la femme, étant référés l'un à l'autre, sont référés à la tierce personne, le tout absolu qui est Dieu. Et puis, si vous faites attention au fait que le verbe de Dieu, la parole de Dieu, va prendre chair, la chair elle-même, ne peut plus être lue seulement comme l'objectivité qui va tomber sous l'approche scientifique ou sous le pur lieu de l'autonomie. Donc si le verbe se fait chair, il va enfoncer, si vous voulez, le verbe va enfoncer dans la chair la compréhension de l'être humain lui-même sous le mode du tu, dans le langage du tu, dans le langage du rapport à autrui. C'est par le rapport à autrui que l'être humain, et autrui qui est Dieu, que l'être humain va se comprendre lui-même.
Et ça va être alors le travail de l'esprit.
Donc, alors que le scientifique, j'ai parlé du chiasme et des objections, ça pourrait être une distraction, mais je vais passer vite. Le scientifique prend son approche comme la plus grande objectivité, mais il a choisi, c'est sa plus grande subjectivité aussi, il a choisi de n'aborder les corps que par le biais de son approche scientifique. Mais c'est un choix éminemment subjectif. Il dit qu'il est le plus objectif, mais son choix est éminemment subjectif. Tandis que le libéral dit que ce qui est l'objectivité dernière, qui doit régir la société, qui doit faire la paix dans la société, c'est de suivre la subjectivité la plus particulière de chacun. Donc, ils se croisent. Mais peu importe. Ce que je voulais dire ici, c'est que le corps, qui est perpétuellement en train de dépasser en acte, le corps qui est perpétuellement en train de dépasser en acte les deux lectures, soit subjectivistes, soit objectivistes, le corps comprend sa propre union dans une alliance. C'est le tiers absolu qui va unifier dans le sujet cette dimension d'autonomie et cette dimension de passivité. Donc il va faire réussir la symbolisation du corps. Je parle de le corps comme trace du tiers. Donc si j'accepte le discours en « tu », ça veut dire que ce n'est plus moi qui parle. Ou ce n'est plus la matière, ce n'est plus moi qui parle seulement. Ce n'est plus la matière seulement que je veux faire parler dans le discours scientifique, c'est l'autre qui parle. Et qui dit ce qu'il a à dire. Et dans un discours en tu, je n'ai aucune raison d'arrêter l'autre. L'autre peut parler et me dire ce qu'il a à me dire, et je peux voir, au fur et à mesure qu'il parle, je peux voir que c'est ça qui convient à ce que je suis. La convenance. Donc je n'ai aucune raison d'arrêter la révélation. Et si j'accepte de comprendre moi-même, de comprendre mon rapport à l'autre, de comprendre le rapport homme-femme, de comprendre le don de la vie comme une image et ressemblance de Dieu, mais c'est parce que Dieu veut se dire ainsi. Pourquoi est-ce que j'irais l'arrêter? Donc je je laisse être son discours. Et puis s'il y a plus de saint, il demande à la Vierge Marie d'enfanter le Verbe. Bon, ça je ne l'aurais pas inventé. Je ne l'aurais pas inventé. Mais si c'est ça qui va me permettre de me comprendre, et j'écoute. J'écoute ce qu'il dit. Et au fur et à mesure que cette écoute descend dans ce que je suis, j'arrive à me comprendre moi-même et à comprendre ma condition corporelle précisément comme la trace du diable. Et saint Paul dit, vous êtes le temple de votre corps et le temple de l'esprit. Donc l'esprit se livre et comme il est l'esprit, il peut aller aussi loin qu'il veut. Et s'il veut aller jusque dans les corps, c'est-à-dire à l'endroit où on l'attendrait le moins, ben, voilà. Que peut faire l'homme d'autre que de le laisser venir? Et donc, c'est en voyant cette extraordinaire cohérence du message chrétien pour la lecture des corps et donc aussi pour la formulation de la bioéthique contemporaine, que je me demande si quelqu'un comme Jürgen Habermas, qui est donc philosophe allemand contemporain, qui a écrit sur tous ces sujets de la démocratie et la loi démocratique, à un moment donné, il dit, oui, mais peut-être bien que dans notre société laïcisée, il y aurait à récupérer d'une certaine façon le contenu biblique. Donc, notre homme s'affole un petit peu de ce qui se passe dans la législation bioéthique contemporaine. Et donc, il se dit, mais peut-être qu'il y avait sagesse dans ces discours religieux qu'il faudrait peut-être entendre et décrypter les contenus bibliques, essayer de retrouver ou de postuler une certaine transcendance pour échapper au pur et simple objectivisme scientifique ou au pur et simple subjectivisme libéral qui fait n'importe quoi des corps, les corps qui ont été coupés par la science de leur dimension symbolique. Donc, c'est très intéressant de voir donc, un philosophe qui n'est pas spécialement chrétien dire peut-être que le discours religieux, peut-être que nous avons besoin de ce « tu », non pas nécessairement ce « tu » confessé, mais au moins ce « tu » supposé pour arrêter les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui. Évidemment, il reçoit une vive opposition de la part des purs laïcs, alors qu'ils disent « mais qu'est-ce que c'est cette ce fricotage avec le monde religieux, la religion reste une conviction privée qui ne doit pas avoir de lien, qui ne peut pas avoir d'influence sur la société comme telle, puisque la société comme telle, ça doit rester un lieu vide où on se met d'accord sur les normes à suivre, où on se met d'accord sur une éthique commune. Alors, je voudrais, pour terminer, partir justement du postulat de cette transcendance pour aborder la question complexe et plusieurs fois rencontrée, la question complexe de la souffrance, le dépassement de la souffrance. Kant, qui a dit dans la critique de la raison pure que Dieu est inconnaissable, que toute réalité métaphysique est inconnaissable, donc elle n'a pas voix au chapitre dans l'ordre de la raison, Kant part sur le plan éthique d'une expérience fondamentale, d'un impératif qui est celui de la raison présente en l'homme, et la raison doit en quelque sorte s'honorer elle-même dans tout être raisonnable. Donc, je dois considérer tout être raisonnable, c'est-à-dire tout homme, comme une fin et non pas simplement comme un moyen. Donc, c'est la formulation de l'impératif catégorique, considérer tout homme, une des formulations de l'impératif catégorique, considérer tout homme comme une fin et non pas simplement comme un moyen. Et ça, cette expérience-là, c'est une expérience immédiate que je fais dans ma raison, et je suis sommé, c'est impératif, l'impératif est catégorique, je suis sommé de respecter autrui. Cela dit, c'est, et donc le seul sentiment que je dois avoir dans ma vie morale, c'est un sentiment de respect pour la loi. Tout autre sentiment doit être banni. Je ne peux pas régler ma conduite morale sur le sentiment. Je dois le régler sur le respect de la loi. Mais Kant dit cette vie morale, elle est austère, elle est très exigeante, respecter autrui comme une fin et pas simplement comme un moyen. Donc, je vais faire l'expérience du psalmiste qui voit que les riches et les méchants s'engraissent tandis que le pauvre juste, il est accablé. Donc ça, c'est pas juste. Donc, il ressent une contradiction en lui entre ce respect du devoir et cette aspiration au bonheur. Alors, comme il est rigoureux, il ne va pas dire « je vais suivre mon aspiration au bonheur, donc pour être heureux, je vais faire ceci ou faire ça ». Non. La recherche du bonheur, c'est un sentiment, mais ce sentiment-là ne doit pas guider mon impératif, ne doit pas guider ma vie morale. Et donc, dit-il, pour réconcilier, pour aller jusqu'au bout de l'impératif catégorique, pour me permettre d'aller jusqu'au bout de l'impératif catégorique, tout en exauçant quand même mon aspiration au bonheur, je vais postuler qu'il y a Dieu. Donc, il a dit dans la raison pure, je ne connais rien de Dieu, mais si je veux être cohérent, si je veux voir la cohérence de ma propre raison, je suis bien obligé de postuler que Dieu va, qui est finalement l'auteur de la loi morale, que Dieu va finalement, un jour, me donner le bonheur. Puisqu'il a créé le monde, puisqu'il il a créé tout mon environnement, il parviendra à me donner un environnement heureux alors que j'étais si malheureux en respectant la loi morale. Donc, c'est intéressant de voir que un impératif éthique conduit Kant à postuler l'existence d'une transcendance. Conduit Kant à postuler aussi, d'ailleurs, la liberté. Parce que ce qui est très curieux pour des hommes modernes, pour nous, la liberté, c'est spontané, c'est ce qui nous vient en premier lieu. Pour Kant, la liberté, c'est ce qui découle du devoir. C'est parce que je dois que je suis libre. Si j'entends en moi l'injonction de respecter autrui, cela veut dire qu'il y a en moi autre chose que le simple instinct de l'animal. L'animal, il ne faut lui faire aucune injonction, il fait tout ce qu'il doit faire. Il fait tout ce qu'il doit faire en suivant son instinct. Mais l'homme est cet être qui se décale par rapport à l'instinct et qui s'entend dire au plus intime de sa conscience qu'il doit respecter autrui. Donc, dit Kant, si l'homme doit respecter autrui, c'est qu'il y a en lui quelque chose qui va lui permettre de répondre à ce respect d'autrui. Il pourrait ne pas respecter autrui. Le chat ne pourrait pas ne pas boire sa tasse de lait. Le chat ne pourrait pas ne pas boire sa tasse de lait. L'homme pourrait ne pas respecter autrui. Donc l'injonction morale est une injonction qui dépasse l'instinct. Donc si c'était une injonction qui dépasse l'instinct, ça veut dire qu'il y a de la liberté. Donc il ne sait pas ce qu'est la liberté, mais il postule la liberté de même qu'il postule Dieu. Alors, je mets ça en rapport maintenant avec ce que nous avons dit tout au long des leçons précédentes sur la souffrance. Et c'est vrai que beaucoup de lois bioéthiques ont pour but de soulager la souffrance. Rappelez-vous, bioéthique au sens large ou familial au sens large, de libérer les gens des contraintes du mariage, de les libérer de la stérilité par la procréation médicalement assistée, de les libérer de la détresse
par l'interruption volontaire de grossesse, délibérée du manque de dignité par l'euthanasie. Donc, toutes ces souffrances-là vont être levées grâce aux lois bioéthiques qui vont permettre au sujet de se dégager de sa propre contrainte corporelle. Même chose pour le changement de sexe, etc. Donc, le sujet va pouvoir se dégager de sa souffrance en se dégageant de sa contrainte corporelle. Et donc, l'ancienne éthique, l'éthique traditionnelle, l'éthique religieuse qui avait largement inspiré nos sociétés occidentales, cette éthique peut être levée par les nouvelles lois bioéthiques, étant donné que ce qui va primer, c'est précisément le bonheur. Et donc, l'aspiration des gens à ne plus souffrir et à aspirer au bonheur va permettre de lever l'éthique ancienne. D'accord ? Donc, du coup, ce qui est premier, alors, c'est la liberté qui doit être, la liberté que Kant avait vue comme ce qui était finalement exigé par le devoir. La liberté n'est plus exigée par le devoir pour nos contemporains. La liberté est le surgissement, justement, le surgissement de la subjectivité qui se fait son corps. Et donc, l'autonomie du jeu va disposer du corps qui a été objectivé par la science. Et Dieu, dans ces conditions-là, n'est plus à postuler, puisqu'on peut avoir le bonheur sans plus avoir à respecter l'éthique ancienne. La seule éthique qui va devoir être respectée maintenant, c'est de laisser aux autres la même liberté, une égale liberté. Voyez-vous ? Bon, il y aurait évidemment à réfléchir là-dessus. Donc, après Kant, il y a eu un changement de sens de la liberté et de la transcendance. Alors, dans la vie chrétienne, j'ai parlé de la création et de l'incarnation. Il faudrait alors pouvoir parler de la passion du Christ, de la passion, de sa mort et de sa résurrection. Et donc, je pense que si l'Église peut se montrer si exigeante, si rigoureuse dans son discours officiel sur la bioéthique, je me demande si ce n'est pas parce qu'elle a une intelligence du corps humain qui va jusqu'au bout de l'incarnation. Et jusqu'au bout de l'incarnation, c'est-à-dire la passion et la mort. Et la résurrection. Donc, le message pascal, le message pascal permet de parler de la mort. Si le Christ n'était pas ressuscité, les apôtres n'auraient pas parlé de la mort du Christ. On aurait pleuré, on aurait fait une cérémonie pendant 50 ans, puis ce serait fini. Donc si l'Église parle, c'est à cause de la résurrection. Et la résurrection lui permet de parler de la souffrance et de la mort. Et lui permet de parler de la souffrance et de la mort, y compris dans les questions bioéthiques. De l'homme qui ne supporte plus son épouse, qui ne supporte pas son sexe, qui ne supporte pas son enfant, qui ne supporte pas, qui ne supporte pas sa vie mourante. Donc, il y a une... je pense qu'il faut lier le discours de l'Église sur la bioéthique, de le lier à toute la révélation. Création, incarnation, résurrection. Et de laisser être le « tu », de le laisser être jusqu'où il veut aller. C'est-à-dire jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Donc, le discours de l'Église est un discours d'espérance. Mais de nouveau, le libéral va revenir, mais moi, rien à voir avec ça, c'est votre conviction. Il va dire, oui, c'est ma conviction, je vous l'ai dit. Elle n'est pas facultative parce qu'elle est votre vérité à vous aussi. Le libéral va crier en disant, mais de quel droit est-ce que vous m'imposez vos convictions ? Donc le dialogue des sourds va continuer probablement jusqu'à la fin des temps. Mais si je parle d'un point de vue de cohérence chrétienne, je pense que à partir du moment où le Verbe se fait chair,
et où le Verbe meurt sur la croix et il ressuscite au matin de Pâques, l'Église ne peut pas s'empêcher de dire que cette histoire-là concerne tout homme. Et donc, et que si quelqu'un veut vivre la souffrance de sa condition corporelle, s'il veut la vivre convenablement, selon sa propre humanité, selon ce qu'il est dans sa propre humanité, il faut la lire à la lumière de la croix du Christ.